Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des trucs en lien avec l'écologie et le Lab 01. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Anne-Sophie.
Hello.
Guillaume.
Salut.
Alex.
Salut.
Et je suis Mathilde. En France, seuls 8% d'entre nous partent séjourner à la montagne chaque hiver. Cependant, l'impact du ski sur le changement climatique et l'érosion de la biodiversité est souvent sous-estimé. 800 000 tonnes de CO2 sont émises dans les stations françaises, pour ne citer que ce chiffre. Pourtant, que la montagne est belle, comme disait Jean Ferrat. Oui, c'est une dédicace pour ma maman. Mais attention, vous le savez, à Court-circuit, on ne donne pas de leçons de morale. Pas question ici de stigmatiser celles et ceux qui partent à la montagne. Aujourd'hui, on va voir si ski peut rimer avec écologie. Et on aura peut-être quelques pistes à la fin dans les conseils.
Attention.
Vous l'avez. C'est un métier. Alors, pour commencer...
Presque.
Bon, c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour du ski. Avant toute chose, c'est le transport de tous ces skieurs qui vont dans les stations, ce qui contribue à l'impact sur le climat. Les émissions de gaz à effet de serre produites par les voitures, les avions, les bus qui transportent ces skieurs peuvent avoir un effet significatif sur le climat. Chaque année, un demi-million de touristes étrangers atterrissent sur des petits aérodromes comme ceux de Grenoble et de Chambéry pour aller skier dans les Alpes. Selon l'ADEME, les transports sont la première cause de pollution en fait, liée au sport d'hiver, à peu près 55% des émissions de CO2. Après, évidemment, il y a toute l'électricité utilisée pour chauffer les bâtiments, éclairer les pistes la nuit, faire fonctionner les canons à neige, les remontées mécaniques. Il a été compté que la moyenne de consommation électrique est de 10 mégawattheures par habitant dans les communes où sont installées les stations, ce qui est tout simplement deux fois la moyenne nationale. Et il y a aussi toutes les activités qu'on pratique autour de tout ça, de type spa, centre aquatique et patinoire, qui nécessitent des infrastructures assez lourdes et beaucoup d'énergie pour faire fonctionner tout ça, évidemment.
Sans parler de la machine à raclette, l'appareil à raclette consomme énormément.
C'est ça. Et puisqu'on parle de ça, parlons des logements qui ont été en masse fabriqués dans les années 60-70 pour accueillir tous ces gens, et à l'époque où les normes d'isolation étaient assez basses. Donc du coup, pas mal de passoires thermiques parmi tous ces logements dans les stations de ski.
Et puis il y a la question aussi de qui va skier. C'est une question qui est pas si simple. On pourrait réduire en disant c'est des personnes qui ont plus de moyens financiers. Ce qui est le cas quand on regarde les chiffres. On a une majorité de cadres qui va skier. Et puis on a quand même un tiers des Français qui n'a jamais skié de sa vie. Donc c'est quand même important. Et puis dans ceux qui vont skier de temps en temps, on a une surreprésentation d'hommes. Ça, moi, j'ai été surprise en voyant les chiffres. Je ne m'attendais pas à ça. 17% contre 11% dans ceux qui vont skier de temps en temps. Et une surreprésentation de Parisiens et de cadres. Mais plus on habite proche des stations de montagne et plus on va skier à la journée, skier sur plusieurs jours. Et dans ce cas-là, on a des profils sociologiques un peu plus diversifiés, quoi.
Et puis, il y a aussi toute la problématique des habitats secondaires en fait, qui se trouvent dans les stations de ski.
Oui, carrément. En fait, il y a des stations de montagne où maintenant, c'est principalement des résidences secondaires. Et donc, des gens qui ne vivent pas à l'année, qui vont y aller que sur la période notamment où il y a de la neige. On a beaucoup d'habitants maintenant qui se plaignent qu'en dehors de ces saisons touristiques, il n'y a plus personne. Ça devient vraiment des stations sans vie. Alors qu'avant, c'était des villages où c'est des vrais lieux. Et là, maintenant, on a plein d'endroits où c'est des stations et ça devient hors de prix. Et donc, du coup, les gens qui y travaillent ne peuvent plus se loger. Et donc, du coup, ils habitent plus loin. Et donc, du coup, les déplacements supplémentaires, c'est ce qui est vécu, par exemple, à Chamonix, où il y a beaucoup de gens maintenant qui vivent dans la vallée et qui, tous les jours, viennent pour travailler parce qu'ils n'ont plus les moyens, en fait, de se loger à Cham.
On peut se demander, du coup, est-ce qu'on va vers une disparition des stations de ski ?
Moi, cet été, je suis allé dans une station à Aussois et j'ai rencontré un phénomène local, entre guillemets, Pierrot, qui est un ancien, qui a toujours travaillé dans la station, qui est à la retraite maintenant, et qui a vu l'évolution de cette station. Donc, Aussois, c'est à 1700 mètres d'altitude, donc relativement haut quand même, mais c'est un versant sud. Et l'eau de la station est quand même à 2700 mètres. Dans un premier temps, quand il a commencé à travailler il y a 40-50 ans, la neige, pas de souci, il y en avait tout le temps, tous les hivers. Deuxième temps, bon, il y a un peu moins de neige, on va quand même mettre des canons en bas de la station pour pouvoir arriver en ski jusqu'au logement et jusqu'à la station. Bon, et puis finalement, dans un troisième temps, on a commencé à mettre des canons jusqu'au haut de la station, à 2700 mètres sur la piste principale, parce qu'il y avait de moins en moins de neige. Et là, actuellement, on est en train de réfléchir à un système pour refroidir l'eau des canons, permettant de les utiliser même lorsqu'il fait un peu trop chaud. Alors finalement, on se demande jusqu'où on va poursuivre les investissements pour continuer le ski coûte que coûte. Voilà.
Oui, c'est ça. Je lisais qu'il y avait une baisse qui a été constatée de 40% des précipitations neigeuses dans les stations. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. La neige artificielle, c'est 39% des pistes en France qui y ont recours, 70% en Autriche et même jusqu'à 100% pendant les JO d'hiver à Pékin. Alex, toi qui es skieur.
Ah bah oui,
il en faut un.
Il en faut un dans cette émission quand même. les impacts, ouais, ça me désole aussi. Mais moi, je voulais parler d'une station qui s'est adaptée. La station, c'est Métabier. À Métabier, il faut savoir qu'à 1000 mètres, les températures moyennes de l'hiver est devenue positive au début des années 2000. Et depuis, le réchauffement s'est accéléré avec une augmentation de 1,5 degré par an en 20 ans. Ce phénomène a fait grimper la limite pluie-neige de 200 mètres en 20 ans. Les études mettent en évidence les éléments suivants dès 2030. La viabilité du ski est fortement remise en question. À l'horizon 2040, la production de neige de culture serait la seule garantie pour la pratique du ski alpin sur des secteurs au-dessus de 1100 mètres à 1200 mètres. À l'abri du vent, à l'abri des vents chauds. En 2050, la viabilité du ski alpin est estimée à zéro.
Et du coup, comment ils réagissent par rapport à ça ?
Eh bien, ils ont fait des choix. Ils ont envisagé la fin du ski alpin à l'horizon 2030-2035, en cohérence avec ces projections climatiques. Et après, ils vont s'adapter. Adapter des décisions de cohérence avec l'orientation de fin du ski alpin, investissement pour maintenir la qualité des remontées mécaniques au lieu d'un renouvellement. Et le développement d'activités outdoor, VTT, trail, etc. Ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel.
Et oui, il faut que les stations s'adaptent, en fait, tout simplement, au réchauffement climatique pour survivre. Un mot quand même sur la biodiversité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais 79% des stations sont construites sur des aires protégées. Et évidemment, plus il y a d'infrastructures humaines destinées aux sports d'hiver, et moins ça fait de place pour les animaux, la faune, la flore. Et c'est pas ouf. Bon, on va passer un petit jeu, on va alléger un peu les choses. J'ai décidé de faire un petit quiz sur le froid, si ça vous va.
Non, j'aime pas le froid.
Oh là là, Guillaume, il est grognon. Allez, première question. Quelle est la température corporelle des animaux à sang froid ? C'est-à-dire les serpents, les crocodiles et les lézards. 15. 10. Une autre réponse.
Ouais.
C'était ouais.
Bravo.
Bah non, en fait, c'était une question piège parce qu'en fait, ils varient selon le milieu dans lequel ils sont. Ça peut aller de 45 à moins 30. Parce qu'en fait, ils vont au soleil pour se réchauffer et à l'ombre ou dans l'eau pour se refroidir. Quel était le titre du premier épisode de Game of Thrones ? Sachant que c'est aussi une expression qui est très utilisée au sujet de la météo.
Winter is coming.
Oui, c'est ça. Où ranger les tomates au réfrigérateur ?
Dans le bac.
Non, il ne faut pas les mettre au frigo.
Oui, c'est Guillaume qui a gagné.
Attention.
Il ne faut pas les mettre au frigo. Et d'ailleurs, sachez qu'elles produisent de l'éthylène, qui est un gaz qui stimule leur maturation. Je ne savais pas ça, sur les tomates. Vrai ou faux ? En 1920, le hockey sur glace faisait partie des compétitions des Jeux Olympiques d'été.
Oh, vrai.
Ouais, pourquoi pas, allez, pour le fun.
Je suis Guillaume.
Oui, c'est vrai. Alors, un petit QCM. Quelle est la dernière chose qu'a dit Jack à Rose dans Titanic avant de mourir ? Désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, est-ce que c'est ? Je pense qu'il y a de la place pour deux. Tiens, mais j'ai pied. Savais-tu, Rose, que l'eau salée a des propriétés différentes de l'eau pure et a une température de fusion inférieure à celle de l'eau ? Ainsi, lorsque l'eau est composée de 10% de sel, elle gèle aux alentours de moins 7. C'est pourquoi je m'apprête à mourir. Ou alors, tu vas te sortir de là, tu vivras longtemps et tu vas faire plein de bébés. Merci, monsieur Injonction.
La 3, elle était bien, elle était intéressante.
Et elle est juste.
En plus.
Non, bah oui, ce qui était vrai, c'était la 1. Il avait tout à fait la possibilité d'être sur ce bout de bois-là.
Ah là, ça y est, la polémique est lancée.
Exactement.
Bon, c'était la dernière, vous en doutez. Allez, une petite dernière. Dans quelle musique de dessin animé Disney entend-on « Le froid est pour moi le prix de la liberté » ?«
Libéré, délivré » ?«
La Reine des Neiges » alors. «
La Reine des Neiges », bah oui. «
Libéré, délivré »
Non, stop.
Bon, allez, je ne pouvais pas la faire. Ouais. Allez, on va passer maintenant aux conseils. Pour ceux qui veulent, qui souhaitent quand même aller dans les stations de sport d'hiver, sachez qu'il y a le label « Flocon vert ». C'est basé sur 21 critères qui identifient les stations les plus engagées en faveur de la transition énergétique, notamment la gestion des ressources, le traitement des déchets, la mise à disposition de transports doux, aussi bien pour les saisonniers que pour les touristes, hein, parce que pensons aussi aux gens qui habitent à l'année, ou encore l'établissement d'une politique de maîtrise énergétique. Et ça, c'est plutôt cool, les labels. Et il y a aussi 350 hébergements touristiques qui sont certifiés écolabels européens en France. Dans
350
les montagnes. 350.
Ça ne fait pas des masses, quand même.
Non, mais ça laisse le choix. On parlait des transports qui étaient un vrai problème. Bon, bah, évidemment, il y a les transports en commun aussi pour se rendre aux stations de ski. Ça évite en plus le stress des encombrements, poser des chaînes, etc. Et il y a également une plateforme qui simplifie vraiment la vie qui s'appelle PoMobility, P-O-W, mobility avec un Y.com. Et c'est un outil où on peut trouver des alternatives à la voiture pour prendre la direction des sommets qui permet de planifier, de réserver et même de payer le trajet.
Dans les conseils, Guillaume, tu parlais aussi de lire Diego Landivar, qui était particulièrement intéressant.
Ouais, Diego Landivar, qui est un docteur en sciences économiques et qui a travaillé avec deux collègues sur comment politiser le renoncement. Et il a travaillé sur l'enneigement, la fin de l'enneigement dans le Massif central. Et face à cela, il y a trois types de réactions. Bah, soit on maintient la neige coûte que coûte, hélico pour la neige de culture, canon, ce que vous voulez. Soit on s'adapte, mais sans renoncer au tourisme de masse. Alors, on lisse le tourisme sur plusieurs saisons, on maintient des stations de ski, mais on crée des animations et des activités sportives qui ressemblent au ski, le ski d'été, la tyrolienne, ce genre d'activité pour lisser un peu ça toute l'année. Ou soit, on prend une décision courageuse, on est prêt à renoncer au ski. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des choix de société qu'il va falloir faire dans le futur. Soit choisir le type de réaction qu'on peut avoir, mais c'est des décisions politiques et démocratiques à prendre.
Et moi, je voulais juste rendre hommage aux montagnards et aux montagnardes qui sont aux avant-postes du dérèglement climatique et qui m'ont, c'est par des échanges, par des rencontres que j'ai aussi beaucoup évolué sur les questions écologiques. C'est des personnes qui, parfois, ont connu des remontées mécaniques qui sont aujourd'hui fermées parce qu'il n'y a plus de neige à certains endroits, qui connaissent aussi toutes les intempéries, qui voient aussi des morts et des accidents chaque année liés à l'instabilité de la montagne. Et je trouve que c'est des personnes particulièrement intéressantes à écouter.
Bon, je voulais juste ajouter, si vous allez skier, comme moi, restez sur les pistes, vous limiterez votre impact sur la faune et la flore locale.
C'est le minimum à faire, je pense. Un excellent conseil. Évitez aussi de skier la nuit, parce que ça utilise de l'énergie pour rien. Et il y a un excellent guide qui a été fait par les Mountain Riders, qui est une association d'éducation à la transition écologique en montagne, où vous trouverez un guide de 56 pages de bonnes pratiques en montagne, qui regorge en fait de très bons conseils. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts de notre émission sur les sites de Radio B. Si vous souhaitez donner des idées de sujets, vous pouvez nous écrire à courtcircuit@lab01.fr ou sur la page Facebook du Lab. Merci de votre écoute, à bientôt.
Ciao.
Ciao.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique.